BFM Business présente Tech & Co Business, le magazine de l'accélération digitale. Frédéric Simotel.
Bonsoir et bienvenue dans Tech & Co Business sur BFM Business. On va beaucoup parler d'intelligence artificielle encore dans cette émission. Justement, l'IA va-t-elle changer notre rapport au savoir? Et on en parlera avec Clarisse Angelier, qui est la déléguée générale de l'ANRT, l'Association Nationale de la Recherche et de la Technologie. On va voir comment la recherche partenariale entre recherche académique et entreprises publiques, privées, eh bien tout ça pourrait nous faire avancer davantage vers le progrès, vers le développement, et tout ça avec une forte consonance IA. On enchaînera avec notre baromètre sur les compétences numériques avec notre partenaire Optimis. Et justement, on va voir comment ces compétences numériques sont à l'épreuve de l'IA. Là encore, c'est en train de bouleverser pas mal de choses. Les techniciens deviennent un peu plus métiers, les métiers deviennent un peu plus techniciens, mais un peu plus IT grâce à l'IA. Et puis, on conclura notre décryptage cyber. Ce sera la dernière partie de l'émission. On aura nos experts qui viendront nous parler de toute l'actualité autour de la cyber. Et là encore, on va encore beaucoup parler d'intelligence artificielle. Et on est ensemble pendant une heure. Restez avec nous sur BFM Business.
Tech & Co Business, l'invité.
Allez, on démarre tout de suite avec notre invité, Clarisse Angelier, bonjour.
Bonjour.
Clarisse, merci d'être avec nous. Vous êtes déléguée générale de l'ANRT, c'est l'Association Nationale de la Recherche et de la Technologie. Alors, c'était fondé en 1953, c'est ça?
Tout à fait.
Le but était de doter la recherche d'un partenariat, la recherche partenariale d'un observatoire et de lieux d'échange. En gros, c'est un réseau de... C'est pour jouer la promotion de la R&D publique et privée, c'est ça l'idée?
Tout à fait. On rassemble les trois quarts de l'effort de recherche privé et public français et on constitue ainsi une communauté force pour développer les partenariats de recherche, faire du transfert entre la science vers l'innovation, créer de la valeur en France, de la compétitivité et puis quelque part la stabilité de l'emploi sociale.
Et 400 membres, ça représente 75% de la R&D, des institutions de recherche publique, des entreprises de toute taille, de tout secteur, des PME, des grands comptes. Vous assurez aussi pour le compte du ministère de la Recherche la mise en œuvre du dispositif de convention industrielle de formation pour la recherche, le CIFRE, justement avec ces docteurs qu'on nous invitant à travers le monde. Ben justement, on voit comment ils peuvent collaborer avec les entreprises. Et l'an dernier, c'était près de 2000 contrats qui ont été subventionnés.
Tout à fait. Donc 5500 doctorants en stock en ce moment et nous sommes plus de 35 000 anciens CIFRE depuis 1980.
Alors, ma première question, Clarisse, c'est pourquoi on sent une crise de confiance dans la science aujourd'hui et comment retrouver justement cette confiance dans notre capacité de progrès, de développement?
Alors, c'est un point extrêmement important, effectivement, que la place de la science dans le progrès et dans la marche du pays. On a deux population en fait. Une population qui reste encore allante, des jeunes qui sont curieux de la marche du monde, curieux d'apporter leur contribution scientifique, notamment aux transitions climatiques, mais aussi une population qui s'est un peu détournée des institutions politiques et des institutions scientifiques. Ça participe du même mouvement. Je pense qu'il y a peut-être eu un manque d'exigence dans la formation de nos jeunes, du primaire, collège, baccalauréat, etc., qui fait que les mathématiques, la physique et l'exigence sur la logique a été un peu mise à mal. Et puis, on peut marquer aussi le point sur les réseaux sociaux où il peut se dire un peu tout et n'importe quoi. Oui. Donc, on a à la fois, à mon avis, un pays qui croit encore à l'importance de la science, mais on doit aider notre jeunesse à s'emparer de cette science pour aider le pays à tenir son rang dans la compétition mondiale, sachant, et j'en termine, qu'on n'a jamais si bien reculé. Si vous voyez le
on le voit dans les différents classements,
sur les classements. Et ça, c'est un sujet, alors qu'on a besoin d'une jeunesse de scientifiques qui participent à la transformation de notre société, que ça soit l'énergie, le climat, le numérique, et j'en passe.
Et alors, comment aller plus vite, justement, pour dégager des synergies entre cette recherche académique, à tous ces institutionnels que vous mettez en contact avec ces entreprises, et des applications concrètes en entreprise? Parce que souvent on voit, c'est un peu la difficulté, on a des doctorants ils sont dans leur couloir de nage, des entreprises qui sont dans leur couloir de nage aussi, les deux couloirs sont pas très éloignés l'un de l'autre, mais on a du mal à les faire converger.
Alors, il y a plusieurs choses, il y a d'une part assurer un niveau scientifique et une capacité de sciences fondamentales importante. Là, ça, c'est le socle, non seulement avec des chercheurs, que ce soit des doctorants, des docteurs, des personnels statutaires, des anciens chercheurs. Donc, vraiment, s'assurer, au moins sur un certain nombre de domaines, que la France tient sa place et quelque part détient des capacités à être vue dans le monde et à tenir sa place dans le monde. Et puis, il nous faut mieux former les ingénieurs et les futurs patrons à la question de la R&D. Mmh. On a quand même globalement, alors je ne parle pas du CAC 40, mais on a globalement des dirigeants qui ne sont pas suffisamment convaincus de l'importance de la R&D et qui peuvent parfois délaisser cette capacité,
cette obligation. Ou qui ont l'impression que ce n'est pas pour eux, parce que c'est,
exactement,
ça paraît lointain, et donc, c'est des chercheurs dans leur labo.
Et donc, ils vont non seulement pas suffisamment préparer leur entreprise à demain et pas suffisamment travailler avec le monde académique. Et on a encore, c'est surprenant de le dire en 2025, depuis 20 ans, on travaille à l'évolution de cette recherche partenariale, à l'évolution de l'organisation de la recherche pour qu'elle soit plus en proximité, pour qu'elle favorise ces partenariats. Mais on a encore des réticences. Et il faut vraiment que l'entreprise accepte qu'elle a besoin de la science fondamentale et qu'elle laisse la science au monde académique.
Oui.
Mais que le monde académique et l'entreprise soient en accord pour récupérer cette science et la transformer en des produits, en des valeurs qui vont assurer la survie de l'entreprise et puis plus largement la survie de la société.
Et puis encore plus largement, c'est une affaire de souveraineté aussi quelque part, cette recherche partenariale.
Alors, c'est une affaire de souveraineté, le mot est très complexe.
Oui, parce qu'en fait, très large et très complexe.
On est souverain quand on détient une brique d'importance au sein de toute la chaîne de valeur. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun pays qui pourra prétendre à être unique sur une chaîne de valeur. C'est pas vrai. Mais effectivement, vous avez raison, il faut apprendre, il faut que nos entreprises et nos laboratoires apprennent à travailler ensemble à l'échelle française et à l'échelle européenne, parce qu'il y a des sujets qu'on traitera au niveau européen, pour effectivement récupérer, devenir les number one sur certaines briques et pouvoir entrer dans le jeu global des compétiteurs que sont notamment la Chine, les États-Unis et voire l'Inde, etc.
Alors, on parle évidemment beaucoup aujourd'hui de l'intelligence artificielle et de l'innovation galopante dans tous les domaines avec cette intelligence artificielle. Vous travaillez dessus au sein de l'ANRT, l'Association Nationale de la Recherche et de la Technologie, sur l'IA au service des apprentissages, parce que là aussi, on est en train de revoir de la même façon que ça transforme les process dans les entreprises, etc. Au niveau de l'apprentissage, c'est comment on introduit l'IA dans les pratiques éducatives.
Alors, c'est extrêmement important parce que d'une part, toutes les entreprises ont intégré l'IA dans leurs process.
Oui.
Que ça soit leur process de R&D, leur process de production, leur relation client-fournisseur.
Il y a même des patrons qui interrogent une IA pour prendre
Mais ça
la
va
décision.
Aller plus loin que ça. Là, je parle d'une IA agentique, c'est-à-dire avec, dans l'équipe de collaborateurs, de l'IA qui pourra manager d'autres IA. Donc ça, on est complètement parti. Les entreprises pourront pas faire l'impasse de travailler aussi avec l'IA. Alors ça prendra 2 ans, 4 ans, 5 ans, mais ça, elles doivent se préparer à ça. Parallèlement, on a, et je le répète, on l'a dit tout à l'heure, besoin d'être très exigeant sur le socle scientifique et de logique, y compris grammaticale, pour nos jeunes jusqu'au bac. Donc là, on a besoin de jeunes qui savent apprendre et qui apprennent bien. Donc, on a besoin de révolutionner vraiment ou de reprendre la qualité des enseignements, la qualité de la pédagogie, la qualité de la capacité de nos jeunes à apprendre. Et là, on peut avoir une IA qui sert d'Aristote, comme disent chacun son Aristote, selon une expression qui n'est évidemment pas de moi, parce que nos jeunes peuvent, avec les bons IA, des IA encapsulées, apprendre différemment, poser 15 fois la même question, poser autrement,
se challenger aussi.
Se challenger et être dans une relation de confiance. On a tous pas osé à un moment donné de notre vie dire à notre maîtresse ou notre maître qu'on ne savait pas, qu'on ne comprenait pas, ou on a posé la question une fois, on n'a toujours pas compris, on a surtout pas osé poser la question une deuxième fois. Alors que là, donc il nous faut des IA d'apprentissage, mais qui sont des apprentissages de consolidation performante, et là nous avons un travail à faire avec l'ensemble de nos pédagogues, et le ministre de l'Éducation doit en parler. Après, post-bac, ça reste un peu vrai en licence, c'est-à-dire qu'il faut apprendre nos jeunes à travailler avec l'IA et savoir les challenger sur ce qu'ils savent.
Oui, parce que ce sera de toute façon leur quotidien
et,
à l'avenir.
Ce travail avec l'IA, et à partir du master, il faut les faire travailler avec une IA agentique ou dans l'équipe des jeunes, sur projet, vous avez aussi une IA, mais une IA très compétente, une IA expert et qui pourra être amenée à gérer d'autres IA. Donc là, on a une véritable révolution en termes pédagogiques à mener. Oui. Je compte d'ailleurs en parler parler au ministre de l'Éducation nationale et à Philippe Baptiste, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, parce que il va falloir que ça s'invite prochainement. Et ça ne veut pas dire forcément plus de moyens, mais ça veut dire sérieusement...
Ni remplacer les profs.
Ni remplacer les profs, ça c'est très clair dans notre discours, mais que ça soit un ingrédient pédagogique qu'on n'oublie pas.
Et puis de faire attention aussi de pas avoir de. J'aime bien, c'est dans les documents que je regardais sur la NRT, vous parliez de dette, le risque de dette cognitive.
Hein, tout à fait.
Juste un dernier mot, le dispositif CIFRE, donc le doctorant est embauché à plein temps dans l'entreprise, il prépare sa thèse en lien avec un laboratoire public. L'entreprise bénéficie d'une subvention aux alentours de 14-15 000 euros, cumulable avec le crédit impôt recherche. Et l'objectif, c'est d'accélérer le transfert de la recherche vers l'innovation économique. Ça, vous sentez que là, il y a quelque chose qui est en train de se faire, enfin, qui
alors,
est en train de se débloquer.
Depuis les 45 ans du dispositif CIFRE, on a aidé à faire pénétrer la R&D et les partenariats publics au sein des entreprises. Et effectivement, l'intérêt de ce doctorant, c'est que c'est un véritable ambassadeur. Il appartient aux deux mondes. Donc, en fait, il va travailler cette relation à son propre bénéfice, puisqu'il fait sa thèse, mais au bénéfice des deux partenaires, puisqu'il va prendre du savoir de l'une pour aller le conjuguer avec le savoir de l'autre. Et c'est pas si souvent que les entreprises ont des gens à temps plein qui peuvent travailler cette relation. Et une fois qu'un doctorant est dans une entreprise, on a eu des cas où il a lui-même monté un département de R&D. Et j'ai des cas d'entreprises qui étaient 30 et elles sont 900.
Voire même créer sa start-up un jour.
Alors
parce
que ça aussi,
il y en a plusieurs.
On a entre 10 et 15% de nos doctorants qui deviennent leur propre patron, évidemment très souvent sur leur sujet de thèse.
Eh bien voilà, l'appel est lancé aux entrepreneurs qui nous écoutent, aux patrons d'entreprise. Voilà, il y a tous ces doctorants qui n'attendent que vous et aux doctorants qui nous écoutent aussi, toujours garder un œil sur ces entreprises. Clarisse Angelier, merci infiniment d'avoir été avec nous, déléguée générale de l'ANRT, Association nationale de la recherche et de la technologie. Moi, je vous conseille beaucoup d'aller sur le site de l'ANRT. Vous allez découvrir, il y a plein de sujets passionnants. J'aurais voulu qu'on aborde aussi celui des métaux critiques parce que vous travaillez sur ces sujets. Mais voilà, le temps nous manque. Mais en tout cas, merci d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
On marque une courte pause et on se retrouve juste après. On va parler des compétences numériques à l'épreuve de l'IA avec nos invités suivants.
Tech & Co Business, la chronique expert.
Allez, chronique expert aujourd'hui avec notre baromètre avec Optimis, avec Alix Mirchin. Bonjour Alix.
Bonjour Frédéric.
Merci d'être avec nous, directeur général d'Optimis. Optimis, c'est cette plateforme qui met en relation des spécialistes, des experts de l'IT avec des donneurs d'ordre qui cherchent justement pour des gens pour mener leur projet. C'est combien d'offres déposées en ce moment par exemple?
C'est plus de 300 besoins par mois où on se parle.
Voilà, donc et on sait, vu l'accélération numérique, on en a souvent besoin. Et avec nous pour témoigner, Consuelo Fernandez-Romero, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes responsable de transformation chez Natran. Alors Natran, peut-être que beaucoup d'entre vous ne connaissent pas, c'est l'opérateur national de transport de gaz. C'est le deuxième européen. Il transporte plus de 600 TWh par an. En gros, c'est une fois et demie, c'est ça, à la consommation d'électricité en France. Alors Natran, Tran comme transport, Tran comme transition énergétique, et puis NAT comme national, puisque vous êtes opérateur national, et puis on peut dire maintenant, si je parle de transition, comme nature aussi, c'est un petit peu ça. On va revenir avec vous sur vos projets IT. Alix, un mot sur, il y a trois mois, on disait le marché est en tension, est-ce qu'il l'est toujours entre cette demande d'experts IT et ce que les entreprises recherchent?
Absolument, toujours de la tension, vous savez, comme on le fait depuis tout le temps sur différents métiers. Ce qu'on relève quand même en 2026, c'est qu'on a une hausse des demandes des grands groupes.
Oui.
On a vu le mois dernier qu'on arrive sur notre indice P2I à un niveau assez record, 1818, niveau jamais atteint depuis 2019, avec donc 34% de hausse des demandes là sur
c'est ça, les ESN, les entreprises clients finaux, ils recherchent, c'est plus 34% de demandes.
Les grands groupes, alors à nuancer quand même, parce que j'ai des confrères qui m'ont dit, attention, nous, c'est pas ce qu'on voit. Alors effectivement, nuance très importante, donc on a quand même une croissance à deux vitesses, dans le sens où nous, on relève des informations en tant que plateforme d'intermédiation. Les plateformes d'intermédiation, comme chacun le savent, dans le métier, sont en forte croissance, démocratisation. Lorsque, par exemple, Synergie relève un peu moins de 2% de croissance pour les ESN, contre moins 2 l'an dernier, je précise, Nous, on constate une très forte demande. Donc, en réalité,
parce c'est que les gens découvrent ou vont beaucoup plus sur ce type de plateforme.
Beaucoup plus sur des modèles hybrides, ESN, freelancing. Alors, d'où effectivement nos chiffres très très importants.
Très, très, très important, parce que dans l'autre sens, la hausse des profits disponibles, c'est plus 3%.
C'est plus 3% seulement, effectivement. Donc, ce qui fait que forcément, on voit très bien un déséquilibre entre la hausse de la demande et la hausse des profils disponibles et pénurie sur certains métiers.
Et alors, on voit les fortes hausses, c'est dans infrastructure et cloud. Et ça tombe bien, on va en parler dans un instant avec...
Absolument, une hausse très importante sur InfraCloud, sachant que c'est quelque chose qui avait ralenti, vous savez, InfraCloud. Mm-hmm, oui. Aujourd'hui, les entreprises sont équipées depuis un moment du cloud, sauf que, en fait, il y a trois facteurs qui font qu'il y a une augmentation. Le premier, c'est simplement, avec l'IA, on a besoin, autant qu'avant, à remettre de l'investissement dans l'InfraCloud, parce que c'est des données...
Moi, ce que j'ai souvent, c'est quand si chaque collaborateur crée 2-3 agents, ben, tout d'un coup, on se retrouve avec un effectif multiplié par 2 ou 3.
Absolument. Simplement. Donc, cette demande, elle explose à nouveau parce que lorsque les entreprises n'étaient pas équipées de cloud, c'était le cas, ça avait baissé. Et là, ça reprend de plus belle avec donc l'IA. Deuxième facteur, c'est qu'on a une problématique de stockage avec la crise sur les RAM, par exemple. Oui. Et le troisième critère, c'est la souveraineté.
D'accord.
Avec cette hausse de souveraineté, il y a un besoin renouveau qui vient sur l'infra et le cloud. Donc, dans 22% de hausse.
Dans les technos, on voit toujours que c'est Java, Jira, SQL qui dominent. Et puis dans les top 3 des fonctions, développeur, chef de projet, business analyst.
Développeur, chef de projet, business analyst, dans le top 3 des fonctions les plus demandées sur le deuxième trimestre de l'année.
Alors, Consuelo, je me tourne vers vous. Donc, je rappelle, vous êtes responsable transformation chez Natran, donc opérateur de transport de gaz. Vous êtes en accord, enfin voilà, par rapport aux chiffres qui sont donnés là?
Oui, tout à fait. Ces chiffres-là reflètent bien notre réalité, nos priorités. Ce qui est sur toute la partie infrastructure, exploitation, les compétences sont clés. Mm-hmm. Et chez nous, on a une partie de notre système d'information qui est très importante parce qu'il surveille 24 sur 24, 7 sur 7,
oui.
Nos 33 000 kilomètres de canalisation.
En plus, on est sur de l'informatique industrielle.
Voilà,
donc
on est sur les volets informatiques industriels. Avec donc voilà ces exigences fortes, il faut un système robuste.
C'est combien de personnes dans votre système à l'IT chez Natran?
À la DSI, on est 230 environ. Oui. Après, si on compte en plus les gens dans les directions métiers, oui, là c'est qu'un interne. Sur la data, etc., oui, on dépasse les 250.
Alors sur le terrain, j'ai noté que vous aviez trois priorités. On va revenir dessus sur votre socle techno et la cyber, des enjeux autour de la donnée et de l'IA. Ça c'est logique, c'est pour tout le monde. Et puis des enjeux de transformation digitale de vos processus métier. Première chose, autour de votre socle technologique, on disait à l'instant avec Alix, voilà, l'infrastructure, le cloud, on est toujours en train d'améliorer. C'est le cas chez vous aussi, chez Natran?
Oui, c'est un continu. Et après, il faut voir aussi qu'au-delà de ces compétences infra-cloud, c'est aussi les compétences un peu des niches sur la cybersécurité, sur comment aussi optimiser l'impact financier et environnemental de cette infrastructure-là, et donc des compétences FinOps, Green IT, qui sont aussi importantes.
Et là-dessus, c'est quoi les arguments sur la cyber qui vont permettre d'attirer certaines compétences? Alors, je disais transition énergétique, ça peut peut-être faire briller les yeux de certains ingénieurs, mais est-ce que c'est ça qui joue pour les attirer chez vous?
C'est ça, c'est aussi l'effet des vires. Vous voyez, c'est très concret, hein, l'impact du système d'information chez nous. On a des infrastructures sur 4/5 du territoire français, 33 000 km des canalisations gaz. Et derrière, c'est quand même concret. Ça aide aussi.
Il y a ces besoins. Alors, je disais aussi, premier projet socle, enfin premier projet, une des priorités c'est socle techno, c'est la cyber. Le deuxième c'est la donnée et l'IA. Et c'est vrai que vous avez des données, on est dans le domaine industriel, donc on réfléchit, faut être à court terme, à moyen terme, à long terme aussi. Comment ça se passe aujourd'hui? Vous avez un besoin, j'imagine, davantage de gouvernance de données dans votre univers.
Oui, ces sujets des données et des gouvernances des données, ça fait un moment qu'on les traite chez nous. Ce qu'on voit là depuis décembre, on a voulu lancer des cas d'usage très concrets autour de l'IA.
Oui.
Et au-delà des cas d'usage, je dirais un peu classiques sur la bureautique, c'est vraiment, on a essayé de chercher ce que l'IA pouvait apporter à nos processus un peu cœur des métiers. Donc on a quelques cas, par exemple, j'ai parlé tout à l'heure des infrastructures, donc là, nos nouveaux postes des gaz renouvelables, sur lesquels on remonte les données. Et l'IA peut nous aider à faire de la maintenance prédictive en analysant les défaillances, les pannes.
Et vous disiez tout à l'heure dans vos équipes, donc il y a les 230 personnes des SI, mais il y a tous les gens qui sont dans les métiers, des métiers qui viennent de plus. Enfin, il y a ce lien qui se fait de plus en plus entre les métiers et l'IT, notamment grâce à c'est l'IA un peu qui va jouer le liant de tout ça.
Oui, et c'est sûr que la data, on a besoin pour avoir une data de qualité et aller vraiment chercher la donnée qui intéresse les métiers. Il faut un investissement de ces personnes-là qui sont au cœur de la connaissance des processus.
Alix, est-ce que ça veut dire que sur une plateforme Optimist, alors qu'on soit offreur, enfin qu'on soit voilà développeur, chef de projet, on doit ouvrir davantage sur ses compétences métiers et de même ceux qui recherchent des offres, ils doivent revoir complètement et on est moins à chercher. Alors on parlait tout à l'heure d'un développeur sur les fonctions Java, etc. Ouais. Mais il faut ouvrir davantage et
absolument. Et c'est bien pour ça aussi que nous sur notre plateforme on traite aussi les métiers non IT.
Oui.
Typiquement sur la transfo digitale, anciennement on parlait de transfo digitale et beaucoup de profils tech. Et de plus en plus, ce qu'on a vu aussi avec Natran, c'est qu'on constate qu'on va avoir besoin de plus en plus de profils non IT sur de la culturation, sur de la formation, sur de l'accompagnement.
En plus, avec le vibe coding, ils vont pouvoir aussi développer leurs propres
Absolument.
Applications.
Et donc, ce sont effectivement des métiers qui vont travailler ensemble de plus en plus. Donc, cette transfo digitale, elle attire aussi de nouveaux métiers, elle va créer de nouveaux métiers. Mm-hmm.
Et on le voit chez vous, Consuelo, sur l'IA générative, vous avez une phase, comme beaucoup, phase d'expérimentation pendant 18 mois, 2 ans. Puis là, ça y est, on passe à l'échelle avec des cas. Enfin, là, vous êtes en train de mettre en place les cas d'usage les plus pertinents, c'est ça?
Oui. Là, par exemple, aussi, un lien avec notre métier, notre cœur des métiers. On doit accéder à ce qu'on appelle, nous, les politiques industrielles ou des procédures techniques qui sont volumineuses, qui sont complexes. Et donc là, on a testé avec l'IA génératif, cas d'usage sur certains domaines métiers. Et là, on est prêt à généraliser. On a dû évidemment adapter un peu parce que les résultats doivent être fiables. Mais franchement, ça s'est très bien passé. Et donc, on lance la phase des généralisations.
Oui.
Et puis, côté IT, évidemment, on a aussi des expérimentations en cours parce qu'on voit bien que tous les métiers des développeurs...
Oui, c'est considérablement en train de changer. L'une de vos troisièmes thématiques, c'est la digitalisation du groupe. Alors, tout ça est lié, bien entendu, entre le socle techno, l'IA, mais ça veut dire que c'est les processus métiers qui sont en train de se transformer.
C'est ça. En fait, l'année dernière, on a lancé notre projet d'entreprise, Natran 2030, et dans ces projets d'entreprise, on a placé la digitalisation et la donnée comme un levier de transformation, des performances. Et c'est important de l'avoir placé comme un levier parce que c'est un moyen, c'est pas digitaliser pour digitaliser. Il faut que la digitalisation soit raisonnée, soit raisonnable et comme on disait là à l'instant, ce qui est important, c'est que ça dépasse les frontières de la DSI.
Oui, oui.
Il faut aller transformer, si vraiment on veut tirer parti de la digitalisation et encore plus de l'IA, il faut qu'au sein des directions métiers, on revoie nos processus et qu'on les transforme en profondeur.
Et ça veut dire davantage sur le site d'Optimist, compétences augmentées. Quoi. Il ne faut pas hésiter à mettre, quand on veut offrir ces services, il ne faut pas hésiter à mettre beaucoup plus que ces simples compétences techniques.
Tout à fait. En fait, les donneurs d'ordre sont de plus en plus exigeants sur le détail des compétences, sur les expériences, sur les nouvelles technologies, sur les nouvelles certifications. Effectivement, on parle de pénurie, mais on cherche aussi de plus en plus d'experts. D'ailleurs, je précise que les profils de plus en plus les profils juniors sont moins demandés justement.
Ah oui.
Du fait qu'on a besoin de plus en plus d'expertise pointue.
Et bien ça, on pourra revenir dessus lors d'un prochain baromètre. Ce serait intéressant de faire un bilan là-dessus. Merci à tous les deux, Alix Mircham, merci. Directeur général d'Optimist, donc partenaire de ce programme avec BFM Business, et Consuelo Fernandez Romero, responsable transformation chez Natran. Merci pour votre témoignage. Allez, on marque une courte pause et on se retrouve juste après avec nos experts sur le décryptage de l'actualité cybersécurité. C'est tout de suite sur BFM Business.
BFM Business présente Tech & Co Business, le magazine de l'accélération digitale. Frédéric Simotel.
Cybersécurité avec le décryptage de l'actualité cyber avec nos invités. Est-ce qu'il y a une urgence stratégique autour de la cyber? Oui, encore et deux fois plus oui avec l'IA qui arrive. On va en parler avec Benoît Grunemwald, expert en sécurité chez IZ France. Bonjour.
Bonjour.
Benoît. Pascal Ledigol, directeur général France de WatchGuard.
Bonjour.
Bonjour Pascal. Michel Juvin, ecosystem advisor chez Allianz.
Bonjour.
Et Jérôme Bilois, expert en cybersécurité en confiance numérique chez Wavestone. Bonjour.
Bonjour.
Jérôme, et alors c'est toi qui vas beaucoup parler. parce que pour tout vous dire, on était un petit peu fainéants. Enfin, moi, en l'occurrence. Je me suis dit, tiens, il y a une belle étude de Wavestone qui est sortie. Et finalement, comme chacun dans le fonctionnement, voilà, chacun propose des sujets. Et on va recouper un peu tous les sujets que chacun a proposés. Donc, Jérôme, donc étude, enfin, c'est un baromètre annuel, c'est un panorama annuel de la cyber France.
Même plus largement, oui.
Il y a enfin, je te laisse dire, voilà, de groupes européens et qui nous dit plusieurs choses sur l'état de maturité, sur les budgets, sur les compétences. On va parler de tout ça. La première chose, c'est que la maturité générale, donc, qui s'installe à 55%, 55,3%, c'est plus 1,3% pour les entreprises. Les budgets, c'est 6,7% des budgets SI, c'est ça, hein, et qui atteint un plateau par rapport à l'année dernière. Les années d'avant, on a augmenté de 3-4% de hausse dans la maturité. Ça stagne depuis 2 ans. C'est bizarre parce qu'on a l'impression qu'on est tous, là encore, on a eu l'actualité autour de Mythos. On se dit, ça y est, tout le monde s'est engagé là-dedans. Qu'est-ce qui se passe?
Alors déjà, pour comprendre, il faut remettre le contexte. C'est effectivement une étude qui est faite auprès de 200 grandes entreprises françaises et européennes, des grands groupes internationaux. On va les voir sur le terrain. On fait des entretiens avec eux parce que c'est des prestations que Wavestone fait d'évaluation de ses clients et on consolide tout ça. Donc on n'est pas sur un sondage administré à distance. On est vraiment sur, on a été sur le terrain, on a mesuré, on a récupéré des preuves, on a échangé avec les experts de chacun des sujets chez nos clients et ça nous permet d'avoir effectivement cette évaluation de la maturité générale par rapport aux référentiels internationaux, hein, on le fait par rapport au NIST ou à l'ISO, et qui nous dit qu'effectivement, là, on voit une stagnation depuis 2 ans. On avait plus 1 an l'année dernière, plus 1,3 cette année. Alors, ce qu'il faut quand même comprendre, c'est que c'est avant la vague Mythos, qui a quelques mois.
Là, on est vraiment alerté tout le monde, même s'il y a beaucoup de communication autour d'Anthropic. Bon, il y a quand même l'outil est là et pour ceux qui l'ont testé, disent qu'effectivement, ça va chercher des choses en profondeur.
Voilà, donc il faudra voir peut-être l'édition de l'année prochaine, en tout cas dans les mois qui viennent, les changements budgétaires, parce que là, les grandes entreprises rentrent dans les cycles budgétaires pour l'année prochaine. Est-ce qu'il va y avoir un vrai effet de surinvestissement? Je commence à le voir chez certains clients. Chez d'autres, c'est plutôt wait and see. On va voir s'il y a vraiment quelque chose qui se passe, mais sur 10-15% des clients, on a vraiment une mobilisation très forte qui est en train d'arriver par rapport à Mythos.
C'est ce que vous voyez tous les deux, WatchGuard, Izette, par rapport à ce que dit Jérôme, c'est-à-dire ça stagne un peu, enfin, on sent qu'on a du mal à franchir une étape et peut-être que là, ça pourrait être le moyen de franchir, je ne sais pas, Pascal.
Alors sur nous, on est PME-ETI, donc on n'a pas le scope complet. On avait fait un sondage, alors juste un sondage. Ouais. On peut pas prendre ce temps-là avec nos clients, hélas, on adorerait, mais ça montrait un peu la même chose sur ce monde à deux vitesses et sur le fait que, en tout cas dans la PME, ce qui fait la maturité, c'est le fait de s'être fait taper, d'avoir eu l'enjeu de l'impact. Et effectivement, on voit que tous les autres gagnent pas en maturité. En fait, cette maturité, elle vient de ceux qui s'est fait taper. Donc nous, c'est ce qu'on voit en fait.
Benoît?
Oui, et nous on voit la même chose. Alors on va sortir le 25 juin une étude similaire à celle de Wavestone, où on est sur un questionnaire. Plutôt sur le SMB, on a interviewé 4400 entreprises en Europe et 500 en France, 1000 postes maximum, hein, donc vraiment un panel assez large. Et ce que l'on voit, c'est que 45% disent s'être fait attaquer et que 75% se disent tout de même confiants. Et quand on rentre dans le détail de l'étude, on voit qu'il y a une lecture paradoxale entre l'état de la menace, l'état de préparation de ces entreprises, de ces SMB, petites et moyennes entreprises, et la réalité du terrain.
Et quand tu dis des entreprises qui se sont fait attaquer, mais qui ont subi des conséquences, qui ont juste paré des attaques, parce que je pense que la notion, elle est importante aussi.
C'est une bonne question. Dans l'étude que l'on a menée, ils disent s'être fait attaquer, ce qui veut dire qu'il y a des conséquences opérationnelles.
D'accord. Michel,
C'est un point qui est intéressant. Et c'est vrai que les chiffres, on n'aurait pas de quoi se plaindre, parce que 6,7% du budget de la DSI, il y a quelques années, on était à 3-4%. Donc il y a une vraie progression. Mais elle est aussi en rapport avec le nombre d'attaques. Il faut citer un chiffre aussi, c'est celui du ComCyberEmi, qui cite 453 000 entreprises qui ont été attaquées en 2025. Ouais. C'est quand même pas rien. Ça veut dire que l'attaque, elle est forte. Et ça croît de 10-12% tous les ans.
Mais qu'est-ce qu'on fait alors pour gagner en maturité? Parce que là, c'est bien. Enfin, voilà, les chiffres, c'est bien. On dira les autres. Mais on a l'impression que oui, 453 000. Mais moi, je suis là. 453 001. Moi, je suis tranquille.
Passé à côté. Ouais. En fait, le fond du problème, c'est cette notion de maturité qu'il faut approfondir. Je pense qu'on est encore à une définition de la maturité qui est pas cohérente par rapport au niveau de risque. Une vraie maturité, comme on le voit là, avec mes pairs au sein des entreprises, c'est qu'on est en mesure de contrôler que tout ce qu'on doit mettre en place comme contrôle est effectivement mis en place. Et c'est cette notion de contrôle qui prend du temps, qui n'est pas facile à faire, qu'il faut vraiment aller un petit peu plus loin pour être certain d'avoir les protections nécessaires.
Et Jérôme ?
Oui, j'adhère à ce qui vient d'être dit pour justement avoir de la confiance finalement dans son système et pouvoir la mesurer, ce qui est souvent une tâche qui consomme beaucoup d'énergie. Parce qu'il faut aller chercher jusqu'au dernier petit élément, etc. Donc il y a eu, on le voit l'année dernière, des augmentations là-dessus et on voit de plus en plus d'automatisation de la vérification de ce contrôle qui est aidé justement par l'arrivée de l'IA. L'autre aspect où il y a eu quand même des investissements l'année dernière, c'est sur la réaction aux incidents. On a eu une augmentation assez nette du nombre d'entreprises qui sont passées en 24/7 dans leurs équipes de réponse à incidents. Alors soit en interne, soit avec des prestataires externes, mais ça a été un des axes d'investissement fort parce que justement les attaques, elles arrivent le vendredi soir, elles arrivent le week-end, les jours fériés,
pendant les vacances.
Voilà.
J'ai cité un exemple de contrôle. J'ai un parcours un peu d'auditeur. Par exemple, on va discuter avec l'administrateur des postes de travail. On lui demande est-ce que vous avez un master que vous avez vérifié conforme à la politique de sécurité que vous avez déployé sur tous les postes. Et il répond oui. Est-ce que Et la question suivante, c'est, lui, il est confiant parce que le master, il marche. Mais la question suivante, c'est, est-ce que vous contrôlez que le master est toujours appliqué après quelques années? C'est tout ça la différence, en fait. C'est être certain que, effectivement, c'est bien fait.
Justement, quand on voit la surface d'attaque qui s'élargit, Benoît, on voit, et on peut rester là sur cette maturité, que même les plus grands se font avoir. Hein. Il y a les dernières failles Mythos qui sont allées chercher. On peut en dire un mot justement. Parce qu'on a l'autre jour, je discutais avec quelqu'un qui dit mais Mythos, il n'est pas public. Enfin, ils l'ont pas ouvert au grand public. Bon, il y a quand même pas mal de gens qui l'utilisent déjà.
Oui, l'accès à Mythos a été élargi, ça c'est une première chose. À quelques sociétés américaines, ça a été élargi. Mais ce que l'on voit, c'est que au-delà de Mythos, qui est à la fois un bon coup marketing et certainement un bon outil pour rechercher des failles, il y a déjà des modèles qui sont spécialisés dans cet objectif-là. Et donc, on peut d'ores et déjà, si on est éditeur, se préparer. Je pense qu'on abordera un volet législatif dans l'émission, mais on peut déjà se préparer au CRA, Cyber Resilience Act. Oui. Le CRA qui, à un moment, va pointer le bout de son nez et va dire est-ce que vous êtes conforme, est-ce que vous êtes capable de prouver à vos clients, on parle encore de confiance, que les produits, les solutions que vous développez sous l'angle numérique sont résilientes et est-ce que vous proposez des mises à jour, notamment pendant un certain temps.
Et là, on est à moins de 100 jours pour le CRA, donc c'est maintenant qu'il faut s'y mettre. Quoi.
Pascal, après le CRA, le problème, c'est qu'il a encore des angles morts, c'est-à-dire qu'il parle produit, il ne parle pas forcément architecture qui a été déployée en entreprise. Et là, typiquement, ce qui arrive à Meta, problème d'architecture, un problème de produit.
Oui, parce que Meta, on pouvait prendre la main sur, sur les comptes Insta et tout ça.
C'est la faille de leur LLM de support, où des pirates ont réussi à manipuler le LLM pour demander au LLM de modifier l'email en se faisant passer pour l'utilisateur qui s'est fait pirater. Oui. Donc en fait, c'est de l'ingénierie sociale versus le LLM de Meta, ce qui est quand même...
En plus, c'était juste un dialogue avec l'IA.
Juste un dialogue, et il a fait le changement d'email, envoyé le code, et voilà. Donc c'est relativement simple, c'est presque aussi basique que la NTS. Mais c'est aussi basique que la NTS.
C'est pas aussi basique. On rappelle, c'est l'Agence Nationale des Titres Sécurisés, ce terme sécurisé, il l'avait un petit peu oublié à un moment, et donc c'est là où on a le passeport, la carte d'identité, etc. Il suffisait de changer quelques chiffres dans l'adresse et hop, on avait accès un peu... ça part aussi simple, mais je crois que c'était aussi simple que ça. Hein.
En tout cas, pour Meta, c'était extrêmement simple parce qu'il suffisait de parler en disant j'ai perdu l'accès à mon compte, voici mon email, et le chatbot envoyait l'email. Donc là, il n'y a même pas besoin de comprendre comment un site marche. Il faut juste exprimer le besoin de récupérer son compte. Donc c'est en anglais ou en français de tout un chacun.
Et je crois que c'est l'un de vous, c'est Benoît qui a remonté aussi le chat qui permettait de mettre un malware, un malware sur Mac.
Tout à fait. Donc là, on va encore plus loin dans l'ingénierie sociale. Il y a plus de réflexion côté attaquant. L'idée, c'est de créer un chat avec Claude, de le partager en tant qu'hameçonnage. Et en fait, quand la victime va voir cette URL, elle va voir une URL légitime, vu que c'est chat.claude, etc. De là, on va faire croire à la personne qui a cliqué sur l'URL qu'il arrive dans un assistant qui va lui permettre d'installer Claude pour Mac. Donc ça, l'origine est souvent des publicités officielles, mais malveillantes. Et une fois qu'on est dans ce chat-là, eh bien, le chat se fait passer pour le support Apple ou le support Claude et vous invite à télécharger un installeur qui, effectivement, n'est pas le vrai Claude, mais un bot.
Pascal ?
En fait, là, ce qui pose problème, c'est on sourit en parlant d'ingénierie sociale versus l'LLM, mais au moins avec des humains, on peut sensibiliser. On parle tout le temps de sensibiliser.
Oui, là, les agents. Cyber.
Là, l'agence, il n'a pas les garde-fous. Il n'a pas les garde-fous parce que de toute manière, il n'a pas la notion du bien,
et
du mal.
Et ça, on peut le faire pour ceux qui nous écoutent, qui ont dans leur entreprise un responsable, un CISO, etc. Ils peuvent aller voir les équipes IT, dire on peut mettre des garde-fous autour de ces. Pour ces agents, pour les former un peu à être plus sensibles.
C'est tout le problème, c'est que là, on a lancé des produits sans sécurité by design. Ouais. On va plus vite que la musique, en fait.
Pour en revenir sur ce point-là, en fait, aujourd'hui, quand on évalue la maturité des grandes entreprises pour qu'elles sécurisent leurs IA, on est à 38% de maturité. On est bien en delà des 55 dont on parlait tout à l'heure. On est à 76% sur « j'ai écrit des règles ». Et je les diffuse, on sait ce qu'il faut faire. Oui. Et par contre, quand on regarde, je détecte des attaques sur les IA et je suis capable de réagir, on est à 8%. Voilà, donc on voit qu'on a fait la gouvernance, les règles. On commence à être dans la protection. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui achètent des systèmes de guardrails pour éviter ce type d'attaque, etc., et qui sont en train de les tester. Par contre, quasiment personne n'a encore ouvert je subis une attaque sur mon IA et je suis capable de réagir, de comprendre et de répondre.
Messieurs.
Oui. Et il y a la question de l'utilisateur aussi qui se retrouve face à ces IA et qui lui aussi va soit recevoir des commandes ou des prompts malveillants, lui-même pourrait être amené en injecter. Et on voit que l'industrie de la défense et des défenseurs est en train de s'armer contre ça, à la fois sur les grands systèmes, mais également sur les postes de travail ou les navigateurs, là où il y a une interaction avec l'IA qui va permettre d'analyser finalement un peu comme un antivirus ou un EDR des comportements malveillants qui proviendraient de l'IA et ou qui seraient injectés dans l'IA, côté utilisateur.
Pascal ?
Moi, ce qui m'embête dans cette histoire, c'est qu'on n'apprend pas du passé. C'est-à-dire qu'on a sorti des logiciels, on s'est demandé après comment les sécuriser. On a sorti...
Parce que le Secure by Design, ça fait quand même quelque chose.
Ben oui, et là, on ressort des IA et on se pose la question après, mais comment on va le sécuriser ? Enfin, typiquement, dans l'AI Act, ça veut dire européen, l'article 15 qui dit qu'effectivement, les systèmes d'IA au risque doivent être sécurisés, ne dit pas comment. Il faut aller voir chez Anthropic qui sort des choses pour... j'ai l'impression qu'on refait les choses à l'envers.
Alors justement, il y a l'importance de la régulation. Ça, c'est aussi un des thèmes abordés par cette étude Wavestorm, par ce panorama, avec 10% de maturité en plus pour les acteurs, alors eux, régulés.
Oui, voilà. Alors quand même. On se dit toujours la réglementation, oh là là, c'est lourd, plein de choses à faire, etc. En vrai, on voit que ça a quand même un effet positif sur le niveau de cybersécurité. Ça aide à flécher des investissements, ça aide à avoir des solutions concrètes. Alors après, tout dépend de la réglementation. Comme tu le disais, les IACT, peut-être un peu flou dans son application. Si on regarde sur NIS 2, ce que l'ANSSI en France a sorti avec le référentiel récif, là pour le coup, c'est du très précis. Ça dit exactement, voilà ce qu'il faut faire et comment il faut le faire. Donc ça enlève beaucoup de débats internes, beaucoup de débats d'experts, beaucoup de débats avec le top manager. En disant voilà, le régulateur a réfléchi pour nous. Alors des fois on peut ne pas être d'accord sur certaines choses, c'est sûr, mais en tout cas ça aide à flécher les investissements. Et puis ça ajoute une chose, c'est le contrôle derrière, parce qu'on sait qu'il va y avoir un audit, on sait qu'il va y avoir des auditeurs qui vont arriver, on sait qu'on peut avoir potentiellement des amendes. Alors tout le monde n'en aura pas et ça va prendre du temps, mais il y a cette épée de Damoclès qui est là et qui permet finalement de conduire le changement, ce qui est souvent le plus difficile en cyber, parce qu'aujourd'hui le top management est bien sensibilisé, les équipes cyber savent ce qu'il faut faire, mais le plus dur c'est de faire changer au sein de la DSI, au sein du fonctionnement des utilisateurs au quotidien. Et un des thèmes clés des années à venir, c'est vraiment la conduite du changement cyber dans les grandes structures.
Michel, justement, autour de ce qu'a fait Nancy avec Recif, là, c'est un beau travail aussi, là.
Alors, effectivement, là, on peut remercier effectivement Nancy d'avoir pris en compte la demande des entreprises qui disaient, mais j'ai plein de réglementations dans tous les sens, je fais 10 fois les mêmes contrôles. Et là, avec Recif, merci au moins, là, on a, une solution pour pouvoir gagner du temps dans tout ce travail qui consiste à rapporter l'efficacité des contrôles. Mais je suis moins enthousiaste que toi, Jérôme, sur le fait que ces contrôles, ils sont vraiment efficaces et opérationnels. Et je pense que là, il faut vraiment qu'on fasse un process d'éducation et de formation, en fait, de l'ensemble des experts cybersécurité, avec l'aide des ESN, avec l'aide des conseils que nous apportent et les vendeurs de solutions de logiciels, et en même temps les ESN, à améliorer nos contrôles, parce que la quantité d'attaques augmente, Mais nous, en intérieur, il faut vraiment aller un peu plus loin que simplement faire ces, ces contrôles. On en a déjà parlé de ça. Mais franchement, il y a une phase de maturation à apporter auprès des experts cyber qui arrivent dans le gros de la troupe plutôt par le monde de l'infrastructure, alors qu'il faut passer un étang au-dessus et penser procédure de sécurité.
Alors, je suis en procédure de sécurité. NIS 2, DORA, tout ça, ça apporte... oui, c'est en train de prendre ou pas, Pascal ? Je vois sourire en coin.
Oui, parce que en PME, c'est particulier. On va toucher.
C'est environ 15 000 entreprises, on estime.
Tout compris. Il y a 360 000 PME. Donc, il va en manquer un bout. Ouais. Et c'est ce.
Savoir déjà si on en fait partie ou pas. Si on est
et du coup, il y a un peu l'œuf et la poule entre la régulation et puis la maturité. C'est-à-dire, est-ce que les entreprises qui sont NIS 2, c'est la réglementation qui les aide à monter en cyber ou c'est parce que c'est leur métier, c'est la nature de ce qu'ils font qui fait qu'ils le prennent un peu plus en considération. Mais effectivement, ceux qui ne sont pas du tout NIS 2 s'en fichent royalement. Ça, on est d'accord. Ça, eux, n'y vont pas du tout. Il y a qu'à prendre l'exemple de la RGPD. La RGPD, avec assez peu de contrôle, est assez peu suivie. Oui. En PME, voire très très peu, sauf les plus grosses PME.
On le cite,
Et le deuxième effet de NIS 2, c'est que si on monte en maturité d'un côté, de l'autre côté, on ne monte pas et on va se faire taper un peu plus. Alors j'espère que la maturité viendra de là, de se faire taper un peu plus. NIS 3
pour les petites et moyennes entreprises, oui, on y arrive. Alors, on fait énormément de communication, nous, et de sensibilisation auprès des dirigeants d'entreprise pour les alerter déjà sur NIS 2, leur rappeler qu'effectivement, s'ils sont le maillon faible de la chaîne, c'est eux qui vont prendre, quand les grandes entreprises sont quand même majoritairement bien sécurisées. Et celles concernées par NIS 2 ont, à mon avis, pris déjà le train de NIS 2. Et nous, on essaye de rendre la cybersécurité des petits et des moyens accessible. Jérôme, tu évoquais tout à l'heure la supervision 24/7. C'est exactement notre objectif, mais pas uniquement pour les grandes entreprises, pour tout le monde.
Ah bah, il faut que ça passe à l'échelle.
Hein. Exactement. Et grâce à l'IA, alors on a un manque de talents, c'est évident, mais nous, on arrive à récupérer des talents. Nous, fournisseurs, on arrive à récupérer des talents. On les mutualise et c'est grâce à ça qu'on arrive à passer à l'échelle pour les petites et moyennes entreprises.
Alors justement, c'est une transition à tout effet pour vers justement les enjeux humains. Un expert cyber pour... un peu moins de 1000 collaborateurs, ça fait pas beaucoup puisque ces collaborateurs ils sont tous en train de se balader un peu partout, que ce soit avec leur portable, avec leur téléphone portable ou avec leur ordinateur de bureau, ou l'ordinateur portable, voire même via leur domicile quand ils ont un VPN ou pas. Et là, les experts cyber poursuivent leur progression avec un expert cyber. Donc pour 1000, c'est mieux qu'en 2025. Enfin pour 979, alors que c'était 1 pour 1025. Voilà, la nuance est importante. Je crois que c'est les acteurs financiers les plus avancés. C'est ça ?
Voilà, les acteurs financiers, certains acteurs financiers un peu particuliers sont à un expert cyber pour 100 collaborateurs, pour vous donner un peu le niveau ratio, maximum qu'on voit. Donc là, c'est des métiers très très régulés, très sensibles. Évidemment, on ne va pas dire à tous les gens qui nous écoutent que pour 100 employés, on va mettre un expert cyber, ça ne marchera pas. Mais le 1 pour 1000 effectivement est trop faible. On dit souvent que c'est 1 pour 600, 700, qui est une bonne cible, tout secteur d'activité confondu, parce qu'elle donne les moyens justement de pouvoir agir, de pouvoir aller au contact des utilisateurs, au contact de la DSI, et de pouvoir changer la cyber. Le problème qu'on a depuis des années, c'est le recrutement, c'est la présence d'experts, c'est la formation autour de ces sujets-là.
Et puis, ce n'est pas de se dire quelque part, tiens, l'IA, il y a peut-être des tâches, l'IA, ça va pouvoir les faire, alors donc est-ce que je recrute
Ça, c'est ce qu'on va... On se dit qu'on va peut-être faire évoluer le benchmark pour justement commencer à compter le nombre d'agents IA en fonctionnement dans les équipes. Parce que là, aujourd'hui, moi, je vois clairement des transformations qu'on a accompagnées. Il y avait des équipes dans le SOC, il y avait 6 personnes qui faisaient quelque chose. Bah, là, aujourd'hui, c'est un superviseur et 6 agents IA qui tournent et qui amènent plus de fiabilité, plus de réactivité. Et les 6 personnes ont pu être mis ailleurs. Et donc, on voit qu'il y a vraiment une transformation qui va arriver. Là, on est dans les phases d'expérimentation, de tests, mais à horizon 2-3 ans, je pense qu'on aura, qu'on comptera quelque part le nombre d'agents dans les équipes cyber.
Allez, sur ce côté, Benoît, puis ensuite Michel.
Oui, clairement, nous, on a investi 40 millions, là, on a annoncé ça il y a 2 semaines, 40 millions sur une IA fabriquée en Europe pour se désengager, on va dire, de la dépendance au Big Tech. Et cet investissement, il passe principalement par le recrutement et la formation de ressources.
Oui, donc on a ça. Michel,
il y a là,
sur ces enjeux humains,
il y a là un vrai paradoxe, hein, parce que Effectivement, le nombre d'experts en cybersécurité, on le voit dans les réunions comme le CESA ou le CUSIF, grossit sensiblement. Mais pour autant, en fait, on a un petit problème de compétences. C'est-à-dire que les compétences sont plutôt des jeunes qui viennent de l'infra et vraiment, il faut aller à un plus haut niveau. Et en même temps, de l'autre côté, on s'aperçoit que eh bien, j'ai pas mal de mes pairs qui se retrouvent en train de se poser la question, je vais changer, mais je ne trouve pas forcément de poste. Mmh. Et ce sont des personnes expérimentées. C'est celles, justement, dont on a besoin pour guider et en même temps former potentiellement les agents IA pour qu'elles effectuent les bonnes tâches au sein des entreprises. Donc là, on est dans une phase qui n'est pas confortable, en fait, pour l'ensemble de la population et les experts cyber, et en même temps les entreprises qu'on doit protéger.
Oui, c'est compliqué de trouver ces besoins, hein, Pascal. Enfin, de bien, comment dirais-je, référencer ces besoins.
Je pense qu'il y a une... Tu disais, Jérôme, tout à l'heure, les équipes dirigeantes sont bien sensibilisées. Je pense que c'est le cas dans les grands comptes, mais c'est pas le cas dans les PME et dans les ETI, où là, on se bat parce qu'eux se battent sur leur production de tous les jours et ont pas le temps de... Voilà. Si on regarde dans NIS 2, il y a un article qui parle de la sensibilisation des équipes dirigeantes. Et je pense que c'est vraiment un vecteur sur lequel on doit aller, parce que ça aura un impact sur le nombre d'experts cyber dans les plus petites structures. Oui. Tant que les dirigeants sont pas bien sensibilisés, on n'ira pas. Pas assez.
Oui, Michel. Et attention aussi, quand on dit 1 pour 1000, ça veut dire les entreprises qui n'ont pas 1000 employés. Il faut quand même qu'elles aient un expert cyber.
PME, on est à 0 sur 100, pardon.
Et parfois, oui.
C'est bien d'avoir le regard de Pascal qui
voilà, avoir un expert dans chaque PME, je pense que c'est pas viable, non. C'est pas jouable.
C'est leur prestataire qui le
voilà. Par contre, des prestataires mutualisés, des RSSI mutualisés, comme on l'a vu arriver sur le RGPD, la protection des données à caractère personnel. Voilà, clairement, ça c'est. Je pense en plus, ça c'est un écosystème qui va se créer, qui va se développer avec le déploiement de NIS 2. On le voit beaucoup dans les régions. On a une structuration autour des campus, autour de certains pôles d'activité pour arriver à mutualiser les efforts.
Alors, autre sujet donc qui sort de ce panorama, hein, Wavestone, c'est celui de besoin de changer la cyber en profondeur. Il faut, de la même façon qu'on refait tout un tas de métiers, on réfléchisse à nouveau à leurs process, alors parce qu'il y a de l'IA, parce qu'il y a de l'IA agentique. Dans la cyber aussi, on doit repenser un peu la façon dont on s'organise, Jérôme.
C'est clairement ce qu'on voit, parce qu'on atteint d'un côté... cette limitation sur les budgets, parce qu'on le disait, finalement 6,7%, c'est pas si mal que ça en budget. Oui. Et donc nous, on voit clairement aujourd'hui, les entreprises, on leur dit rationaliser le budget cyber. Vous aviez eu les portes ouvertes, vous avez investi dans beaucoup de technologies, dans beaucoup de sujets, maintenant rationalisez un peu, premier axe. Puis deuxième axe, on trouve pas les experts qui vont bien, et ça sature aussi sur cet angle-là, on vient de le traiter, donc il faut arriver à se rationaliser, à plateformiser, comme on dit souvent d'un point de vue technologique, pour réduire le nombre de produits. Et puis surtout, il faut arriver à automatiser. Et alors, automatiser, on pense tout de suite à l'IA, mais finalement, il y a beaucoup d'automatisations qui sont même simples et qui ne vont pas forcément requérir de l'IA hyper avancée pour fonctionner. Et c'est ce qu'on voit vraiment sur le terrain actuellement. C'est des logiques de se dire, OK, maintenant, c'est quoi mes processus cyber clés? Comment je les map, et on voit une maturation des équipes cyber qui ont couru après dans la roue du hamster depuis des années, et malheureusement ça continue avec l'arrivée de Mythos, etc. On voit des équipes qui se créent un peu en parallèle du RSSI, qui a sa chaîne de commandement et qui réagit aux incidents, et voilà.
Les gens des risques, peut-être.
C'est des gens, des fois, justement, des équipes d'optimisation, de rationalisation des coûts, des grandes structures, qui viennent en appui aux fonctions cyber pour faire un budget base zéro, pour se dire, ah bah tiens, mais qui fait quoi, combien de temps ça prend, qui fait une cartographie des processus, et qui regarde, finalement, là où l'énergie est bien mise et comment on peut la réguler.
Donc ça veut dire quelque part une nouvelle génération de zéro trust, c'est un peu ça, Benoît, sur lequel il faut.
Oui, moi je vois surtout une bonne nouvelle, hein, parce que ce qui se passe dans les grandes entreprises, comme tu le décris, généralement avec un peu de retard, arrive dans les petites et moyennes entreprises. Oui. Mais si cette structure finalement de la cyber qui descend dans l'opérationnel et qui se met à côté des métiers arrive à donner lieu à des écrits, à des bonnes pratiques, je pense que les petites et moyennes entreprises en bénéficieront, peut-être avec l'aide de l'IA, hein, pour l'analyser. Et l'adapter, mais en tout cas on peut peut-être se dire qu'un peu comme la Formule 1, bah, ça peut arriver dans le grand public ou en tout cas dans les entreprises intermédiaires plus facilement.
Oui, en termes de gouvernance, gestion des risques, détection, réponse aux incidents, résilience, tout ça, c'est des domaines sur lesquels il faut appuyer. Pascal, alors je sais que dans les PME déjà il faut appuyer sur juste le terme cybersécurité de ce que tu nous en dis, mais voilà, il y a peut-être essayer de sensibiliser les gens à travers ces termes-là.
Oui, bien sûr, et puis pour rebondir avec ce que disait Jérôme, nous c'est pas je pense que tu feras le même constat, Benoît, c'est pas on se retrouve souvent avec des clients où ils vont regarder certains domaines comme le patch management. Oui. Ils vont se rendre compte qu'ils ont plusieurs outils qui le font.
Ah oui.
Ça aussi, et avec des couvertures différentes. Donc, effectivement, de la rationalisation, il y en a sur toute la chaîne, et oui. Quelle que soit la taille de
l'entreprise. C'est la difficulté. Hein. C'est vrai que, grâce à vous, grâce à vos innovations, mais justement, la contrepartie de tout ça, c'est que...
Chacun élargit son scope.
Chacun élargit son scope.
Et à un moment donné, il y a cette rationalisation à faire, même pour une TPE, hein, très clairement. Hein.
Et c'est pour ça que souvent, on voit certaines, on aurait pu parler des enjeux de souveraineté, mais qui se tournent vers des grandes plateformes en disant, allez, je vais voir une grande plateforme, au moins eux, ils ont, et alors souvent américaine, enfin même exclusivement américaine, ces grandes plateformes, voilà, en général. Et puis là, au moins, je sais que ça va répondre à tout ça, Michel.
Oui, alors moi, je suis assez content de voir le principe du Zero Trust appliqué à l'IA. Je trouve que ça, c'est un bon concept, parce que on s'aperçoit que trop facilement, ces agents IA, on leur donne un peu beaucoup de pouvoir, et que
parfois ils le prennent tout seul aussi.
Alors ils le prennent tout seul
parce qu'on les a pas bien contrôlés, et puis hop, ils se développent.
Ce qui est intéressant en fait, c'est qu'il y a un mécanisme de mémoire en fait dans ces agents IA, et donc ils conservent potentiellement des droits d'accès ou des accès à d'autres informations. Et donc de fait, lorsque vous exécutez un agent et qu'il a la mémoire de droits d'accès sur d'autres environnements, eh bien il s'autorise des accès. Et c'est là où ça devient un vrai problème. Et donc il y a des tas de contrôles à mettre en place, et comme tu le disais, des contrôles qui sont, j'en discutais avec Edouard Janson l'autre jour, mais c'est du basique, quoi, c'est du bon sens qu'il faut qu'on mette en place. Oui. En l'occurrence, il faut regarder tous les problèmes de friction que peut avoir un agent avec d'autres domaines, des limites de débit, d'accès à des informations, des ports non standards, mettre en place la double authentification. Il y a plein de basiques qui sont très intéressants à mettre en place. Et c'est vrai que c'est un concept qu'il faut absolument développer, sur lequel on va être obligé d'y aller forcément.
Les nouveaux défis, quand même, c'est l'IA, on le sait.
Oui, le nouveau défi numéro un aujourd'hui, c'est l'IA, à la fois dans les grandes entreprises pour les sécuriser, tous les projets d'IA. Et on évoquait à l'instant le Zero Trust. Il y a effectivement, on sait que ce modèle de réflexion cyber qui dit, à la base, je n'ai confiance en rien, donc à chaque fois, je revérifie et je vérifie qui j'ai en face, et j'applique un principe qui est le principe du moindre privilège. En fait, il y a un nouveau principe qui arrive, c'est le principe de la moindre autonomie. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on prend souvent un agent IA et on duplique les droits de l'utilisateur. Mais l'utilisateur, il peut faire plein de choses dans l'application métier, certes, mais aussi aller voir son salaire, poser ses congés, aller dans X domaines techniques variés, accéder à plein de fichiers sur l'intranet. Bon, quand on demande à un agent de faire une tâche, peut-être qu'on peut le limiter finalement à ce dont il a besoin pour cette tâche-là. Voilà. Et donc ce principe de la moindre autonomie est quelque chose qui doit rentrer dans la philosophie de sécurisation des IA et qui est nouveau. Et qu'on est vraiment en train de déployer sur le terrain actuellement.
Ouais, c'est ça, c'est de vos défis, c'est autour de dire, y compris PME, Pascal.
Ouais, je suis ravi de le voir dans le framework d'Anthropique, ce Zero Trust. Alors j'aurais aimé le voir plus tôt, mais bon, c'est mieux vaut tard que jamais. Par contre, à un moment donné, il va le falloir aussi, peut-être en termes de régulation, parce que, comme tu disais, l'AI Act, il est un peu flou, et ce qu'il y a dans tout le framework d'Anthropique, c'est juste l'article 15 de la régulation. Donc il y a encore quand même beaucoup de travail pour qu'on stabilise le domaine.
La difficulté. Un dernier mot là-dessus sur l'IA, Benoît, pour le mot de la fin.
Il faut rester vigilant et déployer avec raison, et aller voir aussi les différents guides qui ont été produits par l'ANSSI. Il y a des guides qui sont très bien faits sur le sujet. Il y en a un, c'est une trentaine de pages, c'est assez digeste.
Bien, merci tous les quatre. Pascal Le Digel, DG France de WatchGuard, Benoît Grunemwald, expert en cybersécurité chez IZ France, Jérôme Billois, expert chez Westone, et merci d'être venu nous présenter ce panorama, et Michel Juvin, qu'on retrouve d'ailleurs sur le site Westone, si on veut avoir davantage de chiffres. Enfin, il n'y a pas que des chiffres, on l'a bien compris, c'est vraiment des témoignages terrain, des données qui reviennent du terrain, et Michel Juvin, Ecosystem Advisor chez Aliensi. Merci à tous les quatre pour ce décryptage cyber, et ça continue à cette actualité. Vous allez voir, on pourra continuer en parler dans nos émissions suivantes. À très bientôt pour une nouvelle émission BFM Business. Rendez-vous ici même, la semaine prochaine, même heure, même endroit. D'ici là, excellente semaine sur BFM Business. Retrouvez-nous en replay, évidemment, et sur les chaînes YouTube. À bientôt.
Tech & Co Business sur BFM Business.